Merci. Bien, merci tout d'abord pour l'invitation. Quelque chose de tout à fait amusant, c'est que Laurence a vraiment ouvert des portes, en tout cas signalé la présence de certaines portes que je vais ouvrir avec plaisir et dans lesquelles je vais m'engouffrer en espérant que tout le monde pourra passer avec la même facilité que moi. J'imagine que oui, parce que de toute façon, ce sont des thématiques que l'on partage, ce sont des concepts que l'on partage, et il n'y a rien d'extraterrestre. Peut-être en guise de petite introduction, vous avez en face de vous un politologue, bon, c'est une espèce qui n'est pas forcément en voie de disparition. Et je trouve que c'est tout à fait intéressant d'avoir justement ces échanges où les disciplines se croisent et permettent justement d'évoluer, d'avancer. Et juste simplement faire le point un peu sur la difficulté justement ou le malaise du politologue en général, qui finalement est une discipline relativement jeune, hein, si on compare à d'autres, puisque ce émerge dans le travail du politologue des thématiques très différentes comme les relations internationales, l'étude des systèmes politiques, le fonctionnement institutionnel, l'évaluation des politiques publiques, les idées politiques. On a toute une série de matières comme ça qui viennent, forcément la démocratie, hein, le grand thème de la démocratie. Et puis on a aussi une partie de la Sciences Po qui, et là je dirais pour essayer vraiment de cerner un peu cette approche, hein, qu'est-ce que nous apportons en tant que politologues dans ce monde complexe, c'est un regard particulier sur les processus de prise de décision public, collectif, qui concerne la collectivité. Et là, je pense que c'est vraiment tout à fait important. Et en tant que politologue, dans le travail que nous faisons, ben, on va convoquer de la sociologie, on va convoquer de l'histoire, on va convoquer de la philosophie, on va convoquer de l'économie, on va convoquer toute une série de disciplines, ce qui rend naturellement le positionnement du politologue un peu difficile, puisqu'on est à chaque fois dans l'interdisciplinarité, en sachant qu'on est bien dans l'interdisciplinarité que si on est bien dans sa propre discipline. Et donc, c'est une exposition systématique à, naturellement, une difficulté de partager un monde commun et des concepts communs. Dans ce monde-là, puisque l'invitation concerne l'expertise d'usage et les forums hybrides, eh bien, je vais essayer de replacer ce concept de forum hybride, ce concept d'expertise d'usage, dans une petite histoire. Alors, je vais partir de loin, plus ou moins, et pour aboutir finalement à la question plutôt d'une remise en question, d'une mise sous tension de nos systèmes de démocratie représentative, pour le dire à la grosse louche. Donc, l'idée, c'est que si on essaie de schématiser ce qu'est un processus de prise de décision publique, si on essaie de réfléchir deux instants à ce qui fonde en essence, véritablement, la prise de décision publique, on peut se mettre d'accord sur un schéma qui n'a rien de révolutionnaire, mais qui a le mérite en tout cas d'exister, et qui en plus a une petite connotation, je dirais, quasiment poétique, je dirais facile. C'est le modèle, alors ça c'est tout à fait schématique, je suis un très mauvais dessinateur, c'est la fontaine décisionnelle. Fontaine décisionnelle, donc une fontaine se caractérise notamment par une espèce de jet, hein, qui a des formes différentes, et en tout cas, ça c'est la fontaine décisionnelle qui schématise ce qui pourrait être schématiquement n'importe quel type de processus décisionnel, et en particulier collectif, public, qui concerne la collectivité. Dans le fondement de cette fontaine décisionnelle, on a, et ça la référence, c'est Bernard Cornelis qui l'a schématisé, qui est un géographe qui a travaillé sur la décision spatiale. Vous voyez, quand je vous dis que le politologue est quelquefois très mal à l'aise par rapport à ça, je dirais à l'espèce de éclectisme qui est obligé de faire, eh bien, c'est un géographe qui a travaillé sur la décision spatiale, qui a farfouillé dans tous les modèles de prise de décision d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique, qui lui aussi a été obligé de faire le grand écart et qui finalement propose un schéma qui, moi, me convient très bien, en tout cas que je réutilise à volonté. Cette frontière décisionnelle, et là je fais court parce que son modèle est relativement complexe, se compose par une première étape, ce qu'il appelle la phase de documentation. Dans la documentation, on retrouve quoi ? Mais on retrouve la connaissance. Hein. C'est la connaissance qui peut être soit de l'information, donc c'est-à-dire sont des données, soit des données qui sont des données brutes, donc c'est toujours bien quelle est la prudence qu'il faut mettre quand on dit données brutes, comme si c'était absolument indiscutable. On a eu la discussion tout à l'heure justement sur des éléments qui peuvent se rapprocher à qu'est-ce qui est considéré comme des données brutes par les scientifiques, des informations, donc des données qui sont traitées pour leur donner un sens, et ces éléments-là participent, sont l'espèce de couche de fond de ce processus décisionnel. Une fois qu'on a ces éléments d'information, alors vous voyez que en filigrane, la question de l'expertise est derrière, hein, l'expertise qui va nourrir en fait ce premier réchaud de la fontaine décisionnelle. Une fois qu'on a ce premier échelon, on a le deuxième échelon, qui est la phase d'analyse. Ça veut dire qu'en fonction des données que l'on a, en fonction naturellement d'un projet ou d'une mise à l'agenda public, ou d'un questionnement, ou toute une série de phénomènes qui vont apporter à un moment donné la nécessité de prendre une décision par rapport au contexte général, on va avoir une phase qui a pour objet de choisir des options. Hein, on a régulièrement ces différents choix dans la mise en œuvre des politiques publiques entre des catégories de chemins qui seraient envisageables de prendre en matière énergétique, en matière économique, en matière innovation, dans tous les domaines. Phase d'analyse, et ensuite on a la phase de prise de décision en tant que telle, qui est un moment, une espèce de moment idéal, typique comme ça, où la décision se prend, et on pourrait quasiment la voir se prendre, se concentre, et on voit tous les efforts des phases précédentes qui viennent se concentrer en un seul point qui, à un moment donné, va vraiment figer une décision. Et ensuite, cette phase-ci, c'est la phase de mise en œuvre, d'implémentation, qui va mettre en œuvre la décision qui a été prise et qui, naturellement, parce qu'il y a les mises en œuvre, va retomber sur tous les échelons de la fontaine décisionnelle. Donc, voilà, c'est un. Si on a ce schéma-là en tête, naturellement, et que l'on réfléchit sur le rapport qu'il y a entre le décideur public, donc quand je parlerai de politique, il s'agira uniquement de ces processus décisionnels qui ont pour objectif de définir un monde dans lequel on doit vivre ensemble, hein, un collectif qui peut être un collectif dont, je dirais, l'ancrage territorial, géographique au sens géographique, la physique du terme peut être très différent. Ça peut être une communauté locale, ça peut être une région, ça peut être un État fédéral, ça peut être l'Europe, ça peut être un peu plus grand que ça. Et donc, cette fontaine montre bien les interactions ou l'importance de l'interaction qu'il va y avoir entre le politique d'un côté et la production de connaissances de l'autre. On a cette approche qui va mettre en évidence que, en fonction du système politique dans lequel on va se trouver, cette fontaine est plus ou moins négociable. Cette fontaine est plus ou moins déterminée en fonction des niveaux. Et si on parle de des forums hybrides, on va voir que ces forums hybrides, et je viendrai sur l'explication des forums hybrides, peut à un moment donné se positionner à différents moments de la prise de décision. Ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, en sciences politiques, généralement, on distingue fortement cette séparation ici entre la prise de décision et, je dirais, toute la phase antérieure qui est une phase qui est étroitement liée à la prise de décision mais qui reste de la production de connaissances. La distinction classique weberienne du savoir politique, pas vous faire un dessin là-dessus, c'est clair qu'on a d'un côté un boulot de scientifique de savant qui ne doit aucunement se mêler à la prise de décision politique et d'un autre côté on a une production, une activité normative de décision politique, qui, elle, ne doit pas du tout non plus venir interférer dans le travail du politique. Donc on a une distinction classique énorme entre les deux, et les deux ne font ni l'un, le scientifique ne fait jamais de politique, et le public ne fait jamais de science. On voit bien, naturellement, que cette séparation classique est mise extrêmement sous tension dans les développements récents que l'on a sur les thématiques que je vais aborder. Donc, cette distinction importante va faire qu'à un moment donné, on va avoir, au niveau du développement des pouvoirs publics, un double phénomène de spécialisation. On va avoir un premier phénomène de spécialisation qui va être de dire « être politique, c'est un boulot à part entière ». Et non seulement c'est un boulot à part entière, mais il doit se fonder sur une connaissance qui ne va pas venir interférer directement. Une espèce de séparation un peu artificielle. Et en même temps, en séparant politique de science, on va aussi dire que le politique, dans son activité, va aussi se spécialiser. On va avoir des ministères particuliers pour les finances, pour la défense, pour la sécurité sociale, pour l'environnement, pour. Et donc on va avoir une multiplication au niveau des pouvoirs publics d'instances de prise de décision, d'endroits de prise de décision qui eux-mêmes vont se fonder sur leur propre rationalité institutionnelle, sur leur propre rationalité administrative. Donc, et en parallèle, nous avons ce deuxième phénomène de spécialisation qui est au sein des sciences. Les disciplines scientifiques sont, chacune d'entre elles, bien déterminées, bien cloisonnées, ont des champs particuliers et font l'objet naturellement d'âpres combats quand il s'agit, par exemple, de dire est-ce que c'est de la philosophie politique, c'est de la politologie, qu'est-ce que c'est, où on en est, et on a tous en tête des combats de ce type-là, au sein même de nos universités, où des disciplines se battent sur des morceaux, en fait, des objets de recherche, carrément s'entre-déchirent pour définir leur propre champ d'investigation, leur propre légitimité, leur propre spécialisation. Et ça, je pense que ce cloisonnement, c'est un cloisonnement que l'on connaît tous, et il existe des exemples tristes qui permettent justement de montrer ce double phénomène de spécialisation. Phénomène de spécialisation, de cloisonnement, qu'il est difficile de pouvoir combattre dans la mesure où il y a cette notion d'efficacité. Parce qu'on est spécialisé, parce qu'on a un ministère spécialisé dans un domaine, on va donc produire des spécialistes du domaine dans l'administration publique, qui vont être un peu, en quelque sorte, la mémoire collective de ce que fait la région Wallonne en matière d'environnement. Toute neuve, région Wallonne, hein. Sur le plan institutionnel, c'est juste nouveau. Mais on commence à avoir cette expertise-là en interne dans l'administration publique. Si je prends le cas de la région Wallonne, c'est pour vous raccrocher ça à des réalités très concrètes. Quand on a le processus de fédéralisation, qu'est-ce qui se passe? Les compétences de l'administration publique se trouvent au niveau du fédéral, du national. Quand on accouche de ces communautés et des régions, on a des personnes physiques, des gens qui ont des cerveaux, qui marchent, qui ont des connaissances, qui sont répartis dans toute une série d'administrations régionales ou communautaires. Et donc, il y a un moment de perte complète de mémoire collective au sein des administrations. Donc, cette spécialisation, à un moment donné, par le phénomène de fédéralisation belge, est complètement déstabilisée, un peu secouée. Et on a seulement maintenant les premiers éléments qui montrent qu'il y a un processus de construction identitaire d'administration publique au niveau de la région Wallonne, puisque on a revu dans le détail le fonctionnement de l'organisation du ministère de la région Wallonne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'ancienne organisation, vous aviez deux grands ministères. Vous aviez le MET d'un côté pour les transports, les équipements, et vous aviez le ministère de la région Wallonne de l'autre, qui ne veut absolument rien dire. Et aujourd'hui, vous avez ce type de brochure qui circule dans l'administration publique wallonne, avec toutes les DG, DGO, DG6, DG5, qui sont extrêmement bien déterminés, avec des domaines de compétences, avec des personnes, des directeurs généraux. On a cette spécialisation, aujourd'hui en région wallonne, nous l'avons enfin retrouvée. Pourquoi? Pour l'efficacité de quoi? L'efficacité de la mise en œuvre des décisions des pouvoirs publics. L'administration, elle est au service de l'implémentation de la prise de décision politique, et elle est aussi à l'origine des types d'informations dont on a besoin pour dire qu'est-ce qu'on fait en termes d'innovation en région Wallonne. Double phénomène de spécialisation très important, à la fois scientifique d'un côté, à la fois politique administrative de l'autre. Il s'agit en quelque sorte de ce qu'on appelle une double délégation. Double spécialisation, double délégation, ça veut dire que les citoyens ont délégué à un moment donné à l'administration publique, aux décideurs publics, un certain nombre de prérogatives dans la prise de décision pour parler au nom du collectif. Et en même temps, ils ont délégué aux scientifiques le soin de nous dire ce qu'est le réel, ce qu'est le vrai, que sont les lois universelles, que nous disent qui sont ces microbes dont on parle. Donc il y a un double perte finalement, en même temps de ce phénomène de double délégation, on a une espèce de perte de double de souveraineté du citoyen. Alors on peut retourner en philosophie politique en disant oui, mais ça, c'est un contrat, hein, on est d'accord de perdre sa souveraineté, on s'occupe de ses enfants, on s'occupe de ses affaires, et on est d'accord de laisser ces deux secteurs, ces deux sphères travailler pour notre bien-être et pour notre bonheur. Alors, je ne vais pas revenir sur la question de la de l'évolution de ces laboratoires scientifiques, de ces disciplines scientifiques. Tu en as fait référence avec le régime de la curiosité, le régime de l'utilité et puis le régime de l'exactitude, où on voit ce développement et finalement cette ultra-spécialisation qui va aboutir. Et en même temps, mais je voudrais simplement rajouter aussi qu'il y a c'est
l'ICOM,
oui, c'est question
ça.
L'ICOM. Que le développement de la science, à un moment donné, parce qu'il va justement considérer certaines choses comme étant des boîtes noires sur lesquelles on peut bâtir et on peut avancer, qu'on ne doit pas toujours remettre en question, va produire ses propres artefacts qui vont, à un moment donné, et ça c'est une question qu'on peut poser en termes de, je dirais, de ce qu'on imagine être une espèce de phénomène de falsification, processus habituel dans le fonctionnement de la science, où on doit justement permettre aux autres de tester les hypothèses. Et plus on avance et plus les artefacts, plus les boîtes noires sont complexes, qui est encore à même dans le monde scientifique de tester, de vérifier, de décortiquer les dernières évolutions. Et là, je fais le lien avec les nouvelles technologies, et je fais un petit lien avec le concept de zone technologique développé par Andrew Barry, qui est de dire, à un moment donné, dans les technologies de pointe, on va avoir des laboratoires qui vont détenir des techniques, des outils, des laboratoires extrêmement spécialisés, que eux seuls sont à même de pouvoir faire tourner, faire fonctionner, qui sont eux seuls à même de pouvoir produire de nouveaux produits, de nouvelles constructions scientifiques, et donc eux seuls sont capables de revérifier. Et que le chercheur lambda dans une université, très bonne université, mais qui n'a pas l'équipement technologique requis, sera tout à fait incapable de mener le travail de confrontation, de falsification, de vérification. Et donc on a ce phénomène-là, qui est un phénomène qui n'est pas négligeable, et qui se répercute dans quoi ? Dans la prise de décision des pouvoirs publics, je refais le lien ici, par rapport aux nouvelles technologies. Là, je vais venir sur les exemples de nouvelles technologies. On voit très bien qu'à un moment donné, sur la thématique des biotechnologies, quand nous avons notre institut de santé publique Louis Pasteur, ainsi appelé, qui doit se prononcer sur les dossiers de mise sur le marché d'OGM, oui, il reçoit des brouettes de documents de Monsanto et des autres gentils pourvoyeurs d'animaux dans le monde qui vont sauver tout le monde. Vous avez vu le documentaire sur RT, j'imagine, ces derniers jours. On a ces merveilleux documents qui font de l'analyse des risques. Et on a nos gens de l'administration publique, des docteurs en biologie, des gens sérieux, labellisés, scientifiques, hein, pas des ouvriers, qui n'ont pas forcément les moyens de vérifier, ni le temps de vérifier ce que Monsanto apporte comme allégation, pas de santé, mais allégation d'innocuité d'une nouvelle molécule ou d'un nouveau produit. Et donc on a, avec cette ultra-spécialisation, on a d'abord cette première délégation, cette première perte de souveraineté, mais en même temps, on va encore un peu plus loin, c'est que dans le monde scientifique, il y a encore une perte à un moment donné, une incapacité pour une partie de la communauté scientifique de faire partie du jeu et de pouvoir éventuellement appliquer les règles du jeu si on a une démarche, si on a une vision très popérienne de la science, hein, qui, naturellement, de manière quasiment systématique, va rejeter ou confirmer les hypothèses si elles se présentent. Donc, tout ça pour vous dire que ce double phénomène-là, cette double perte de souveraineté, est étroitement liée au concept de certitude et d'incertitude. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, le modèle de prise de décision, il tient la route. Il tient la route tant que quoi ? Tant que la science est toujours capable de nous dire ce qui va arriver. Ou tant que le mythe platonicien fonctionne bien et qu'il n'est pas remis en question. Ou tant que les controverses, l'incertitude, restent confinées au sein des laboratoires. En fait, tant que ça fonctionne, le processus de prise de décision ici n'est pas du tout menacé. Il fonctionne bien. Si à un moment donné, par contre, le scientifique doit sortir de son laboratoire, pour diverses raisons, et mettre sur la place publique des problèmes, des inquiétudes, des considérations qui ne sont plus des considérations de type scientifique, qui peuvent l'être, mais qui sont aussi des considérations de type politique, qui franchit une ligne interdite, personne ne lui a dit qu'il pouvait parler de considérations éthiques, sociologiques ou politiques. C'est pas son job de faire ça. Habituellement, on ne peut pas le faire. Et donc quand il y a une sortie, il quitte le monde scientifique, et là, il prend des risques en tant qu'individu, hein, en tant que scientifique aussi. On voit très bien les problématiques de ça. Donc on a une mise sous tension de ce processus-ci, quand on parle d'incertitude, et plus particulièrement quand on parle de risque. Alors là, c'est là que je viens avec mon histoire de risque. Hein, faire un petit peu, je dirais, un détour par le concept de risque, qui n'en est pas véritablement un, mais le concept de risque pose toujours un véritable problème quand on essaye d'y réfléchir. Quand vous êtes dans n'importe quelle société savante, ou conférence, ou réunion, et qu'on doit parler des risques, en général, on prend une demi-journée pour commencer à se mettre d'accord sur la définition du concept de risque. Bon, il y a les deux grandes approches très différentes, mais qui plongent leurs racines dans des, je dirais, dans un positionnement épistémologique quasiment. Hein. C'est de dire, soit le risque existe, est un objet réel, c'est une réalité hein, qu'on peut toucher, qu'on peut palper, qu'on peut mesurer, qui existe. Soit c'est une construction sociale, alors qu'elle soit scientifique ou qu'elle soit pseudo-scientifique ou qu'elle soit autre chose, c'est une construction sociale. Hein. Si on dépasse ça, parce que sinon on n'en sortira pas, si on dépasse ça et que l'on adopte plutôt... Ben, alors là, si je dis que je dépasse, mais que je dis quand même ce que je pense, naturellement, je vous force à dépasser avec moi dans le même sens, mais tant pis. Si on a une approche plutôt constructiviste du risque, voilà, en disant que de toute façon, même les puristes positivistes, démarche ingénieur forte, disent que le risque, c'est une probabilité d'occurrence, de dommage, en fonction de la vulnérabilité. Donc, pour résumer, il y a un virus de la grippe qui circule, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, c'est difficile de ne pas l'être. Bien, nous sommes tous exposés au risque, ici, de la même manière. Quasiment, si j'éternue mon grand coup, nous sommes tous exposés au risque de la même manière. Mais vos systèmes immunitaires font que la vulnérabilité n'est pas la même. Donc on pourrait calculer en fonction de la vulnérabilité de chacun, du contexte, de l'histoire, tout ce qu'on veut, que votre risque est de autant, d'attraper le virus de la grippe. Donc ça, c'est une approche très, très scientifique, très ingénieure, en disant, voilà, on arrive à matérialiser un risque qui est un événement potentiel de probabilité d'occurrence d'un événement dommageable. Cette conception du risque, pour dire que j'ai une approche constructiviste, de toute façon, ça n'existe pas. C'est un calcul. C'est quelque chose qui n'est pas dans la réalité. C'est une projection de quelque chose qui peut venir, donc qui n'existe pas encore. Alors, si on arrive à l'histoire, on ne parle pas d'une chose en réel, on parle d'une chose qui va peut-être arriver dans le futur, même si ça repose sur des modèles mathématiques qui, comme je l'ai bien compris, appartiennent à un monde, le monde de l'évidence. C'est méchant de dire ça. Vérité d'évidence, et donc on se retrouve ici avec un concept de risque qui aujourd'hui est le fruit de quoi? Et le fruit, quand alors, on peut se mettre d'accord pour dire que le concept de risque a véritablement pris sa forme et son épaisseur actuelle à partir du moment où on a commencé à avoir beaucoup de commerce maritime au 16e siècle, où on s'est dit tiens, finalement, quand un bateau doit partir, on sait que s'il emprunte telle route à telle époque, il y a moins de chances qu'il ait des problèmes et qu'il arrive à mon port, qu'à le dire. Et donc, on a commencé à faire avec des outils de statistiques, de dire, bah, tiens, on emprunte 10 fois la même route et on ne perd que 2 bateaux, c'est très bien. Et donc, le système d'assurance a commencé à se mettre en place. Donc, le concept de risque est intimement lié à cette capacité de l'homme de faire de la prévision. Prévision basée sur quoi ? Pas sur des sentiments ou des danses rituelles ou des prières ou le fait que le petit lutin dans le fond du jardin peut nous aider, mais simplement sur le fait qu'il y a des éléments qui ont été énumérés, mesurés, étalonnés, répertoriés, qui font qu'à un moment donné, le futur peut être à un moment donné prévu sur une certaine échelle avec une marge de manœuvre particulière. Donc le concept de risque est intimement lié à cette capacité de la connaissance scientifique pour le faire au sens large, de nous dire ce que va être demain en se fondant sur des éléments mesurables, quantifiables, etc. Donc, risque est étroitement lié à cette maîtrise de l'être humain sur la réalité. Dans le développement de nos sociétés occidentales, on peut distinguer avec ce concept de risque 3 périodes. Je dirais une première période dans le mode de fonctionnement de la prise de décision publique. Je parle ici de l'État. Je sais que c'est un raccourci énorme, mais parce qu'il faut bien à un moment donné s'ancrer dans quelque chose. Si on prend le fonctionnement de l'État, eh bien, on a, je dirais, grossièrement, avant le 19e siècle, ou jusqu'au 19e siècle, ce que François Ewald propose en étant le régime ou le paradigme de la responsabilité individuelle, le bon père de famille. Ça veut dire que vous êtes dans une société industrialisée, il y a les machines, le métier à tisser qui tourne, ou il y a les mines qui fonctionnent, vous allez travailler, vous perdez un doigt, ou un bras, ou vous mourrez, ou votre grand-père meurt dans la mine, ben, c'est comme ça. Il n'y a pas personne responsable de ça, à part le fait que vous deviez agir en tant que bon père de famille et pas être au mauvais endroit au mauvais moment. C'est tant pis, c'est la faute, à pas de chance. Et c'est votre responsabilité individuelle de prendre en charge les conséquences négatives d'un développement qui est un développement de type technico-industriel, économique, qui va transformer nos sociétés comme les nouveaux tracteurs, les nouvelles chaudières à vapeur, ce genre de choses. Ce modèle-là de la responsabilité individuelle fonctionne très bien, puisque en même temps vient le discours qu'on ne peut même pas commencer à faire de la charité, à commencer à soutenir ces personnes qui, à un moment donné, parce qu'elles sont soutenues au niveau des conséquences dommageables de leur exposition au risque, vont commencer à faire n'importe quoi. Donc on continue à maintenir un système d'État qui dit aux gens, prenez vos responsabilités. Si ça explose, tant pis, mais vous devez prendre vos responsabilités. Donc, un régime particulièrement ultra-libéral de ce point de vue. Le système commence à montrer ses limites quand, socialement, la gestion des conséquences individuelles de ces développements technologiques de société deviennent insupportables. Mouvement socialiste, on commence à voir se pointer des manifestations, les grandes crises période industrielle, les gens refusent en fait de payer le coût humain de santé publique du développement technologique pour que eux en fait sont obligés de subir. Ce modèle-là va arriver à ses limites très rapidement, fin du 19e siècle, avec le début des premières législations qui vont encadrer le travail des enfants, qui vont obliger les enfants à aller à l'école, ça facilite déjà pas mal de choses, qui vont permettre d'avoir des caisses d'allocation, d'assurance, etc., qui vont collectiviser en fait le risque. Et donc là, on est dans une période très particulière, à partir du début du 20e siècle, où on va avoir une approche collective des risques. On va se dire, dans nos sociétés, nous avons pris toute une série de décisions de mise en place de sidérurgie, d'industrie particulière. Ces industries, malgré le comportement en bon père de famille des ouvriers, des personnes qui y vont, elles produisent des risques, quoi qu'on en fasse. Ces risques-là, on va les accepter en tant que tels d'un point de vue collectif et on va les rendre simplement assurables, on va les assurer d'un point de vue collectif. Donc, développement d'État-providence, on va apporter des corrections de type social aux conséquences négatives dommageables qui sont liées au développement de la sidérurgie, de l'industrie, des phénomènes technologiques de ce point de vue. C'est une collectivation donc des risques. Et donc on a, pendant cette période-là, un modèle extrêmement puissant qui parle des risques en termes d'analyse des risques. Et ce modèle, il est très simple. Il se présente sous cette forme ici. Et on voit qu'il y a une fermeture même de la possibilité de parler de risque en dehors de ce type de processus. On a une série, on a l'identification, une partie d'identification des risques, on a une partie d'analyse des risques, on a une partie de gestion des risques. Approche extrêmement scientifique. Ça veut dire que dans cette période, on va développer toute une série de technologies particulières. Je vous fais grâce des liens entre conflits militaires et développement technologique, mais là, ce sont des exemples très clairs de monopolisation de la recherche scientifique, du développement technologique à des fins étatiques de prise de décision de l'État. La bombe nucléaire est le premier exemple de ça. Et on va avoir dans cette période cette prédominance d'un modèle extrêmement simple, qui n'a aucune boucle de rétroaction, qui est. On identifie les risques par qui ? Par le scientifique. On analyse ces risques par qui ? Par le scientifique. Vous retrouvez la distinction classique des GIM et ici. Surtout, eux n'ont absolument rien à dire ici. Ce n'est pas eux qui doivent prendre la décision. Ce sont les politiques qui vont prendre les mesures de gestion des risques. En fonction de quoi ? En fonction d'autres éléments à prendre en considération, c'est-à-dire les ressources disponibles, le projet politique derrière, tout ce qui est. Et au bout du compte, un peu comme un intestin, le dernier morceau, c'est le cri, c'est la communication des risques. Et la communication des risques, je dis que c'est un intestin parce que ça veut dire à qui s'adresse la communication des risques ? aux destinataires, aux citoyens, aux usagers, et on considère quoi? Que d'une part, ils sont trop bêtes et irrationnels pour comprendre ce que sont les risques, ils ne savent pas les identifier, comment les analyser, ils n'ont pas du tout, donc double délégation, ils n'ont pas du tout aussi la capacité de prendre des décisions par rapport aux options, et donc ils sont juste bons à recevoir un feuillet d'information, même pas de communication. Là, quand je dis communication, c'est parce que je vais être gentil, c'est de l'information sur les risques. Or, on peut faire le lien avec une approche un peu plus foucauldienne sur l'intériorisation des normes, des règles, des risques pour justement, c'est une preuve de pouvoir en fait, c'est une prise de pouvoir complète de ce processus-ci scientifico-politique sur ces citoyens qui de toute façon sont juste bons à bien comprendre ce qu'on leur dit et de faire attention, de mettre leur ceinture, etc. Un exemple vraiment hallucinant de ce type de processus-là, pendant la guerre froide, aux États-Unis, et je n'ai toujours pas retrouvé, je l'ai vu passer un jour de ma vie, je crois que j'aurais dû en fait le voler, ça aurait été beaucoup plus simple, un petit feuillet d'explication sur ce qu'il faut faire en termes d'information en temps de guerre thermonucléaire globale. Bon. Donc, tension internationale énorme, guerre froide, on ne rigolait pas à ce moment-là, je ne me souviens pas, je n'étais pas en ligne, après ce que je peux en lire et avoir le témoignage direct, je me dis que si. Donc, des risques qui sont liés à une utilisation particulière d'une invention technologique qui est la bombe atomique. Et on a ce petit papier merveilleux qui explique ce qu'il faut faire en cas d'attaque thermonucléaire. Alors, donc, on informe les gens. Donc, on informe sur quoi? Sur l'identification. L'identification, c'est, vous voyez une énorme boule de feu ou de lumière dans le ciel. J'identifie le risque. Donc, quand vous avez vu ça, en général, vous êtes déjà aveugle. Analyse. Donc, risque, explosion nucléaire, vous faites analyse. Vous avez le temps de dire, tiens, s'il s'agit donc froidement d'une explosion thermonucléaire, d'une bombe atomique, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a toute une série. Si vous êtes dans la rue, mettez-vous derrière une voiture. Si vous êtes chez vous, mettez-vous. Ce sont des exemples très concrets pour que les gens comprennent bien ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. À la maison, c'est se mettre sous une table, des choses comme ça. Et voilà. Je dirais, c'est tellement ahurissant que je pleure de tristesse chaque fois que je dois faire un exposé et que je dois mobiliser cet exemple aussi parce que je n'ai pas ce papier. C'est complètement ahurissant parce que ça veut donc. C'est vraiment un bel exemple. Si évidemment, si on identifie la lumière dans le ciel, c'est fini, quoi. Ça n'a pas de sens. Mais tout ça sous-tend quoi? Tout ça sous-tend en fait la question de la confiance. La confiance. Dans cette double délégation, les citoyens, les usagers font confiance. Ils font confiance au pouvoir politique qui va prendre des décisions, ils font confiance aux scientifiques qui sont capables de nous dire ce qu'est le réel et quels sont les risques. Donc il y a en fait, qui sous-tend tout ceci, un énorme paquet confiance, un paquet de confiance, vous en aurez deux. J'ai confiance aux politiques, j'ai confiance aux scientifiques, et je ne discute même pas ce qu'on va me donner comme information, aussi ahurissante soit-elle. Vous allez me dire, aujourd'hui, on est peut-être loin de ça. Je ne suis pas si sûr pour un certain nombre de domaines où on peut se poser beaucoup de questions sur ce fond, en fait, cette lame de fond qui continue, toujours et encore. Donc ça, c'est véritablement le modèle classique d'analyse des risques qui prévaut pendant cette période du paradigme de la prévention, selon les mots. Et puis, il se passe des choses, quand même. Alors, là, je reviens sur la question des risques réels ou pas réels, on peut encore discuter là-dessus. Maintenant, il y a une rupture, en tout cas. Cette rupture, elle se situe avec quoi? Avec quoi peut-on identifier cette rupture? On l'identifie avec ce que Ulrich Beck, avec beaucoup d'intuition, a bien identifié. C'est ce qu'on appelle les risques modernes. Bon, c'est toujours embêtant parce que le risque moderne, c'est déjà un problème tout de suite. Il y a des risques modernes et des risques qui ne sont pas modernes. Et surtout, cette distinction-là peut même être discutable sur le fond par rapport à toute une série de caractéristiques. Et Ulrich Beck nous dit, bon, allez, c'est qui? C'est un sociologue allemand qui est quand même politiquement, c'est un militant, c'est quelqu'un qui veut faire bouger les choses. Donc c'est un de ces scientifiques qui sort de son rôle de scientifique et qui veut aller mobiliser. Mais comme c'est un sociologue, comme c'est un scientifique mou, c'est moins grave. Puisque dans la représentation collective, les scientifiques, ou de toute façon, il ne faut pas quelque chose d'objectif. De toute façon, ils peuvent bien faire, ce que je disais tout à l'heure, ils peuvent bien aller challenger au niveau politique, puisque de toute façon, ils n'ont pas cette même aura
que les scientifiques durent. Donc, Ulrich Beck nous dit, mais tiens, il y a des nouveaux risques. Je ne crois pas plutôt nouveaux risques que le risque moderne. Il y a des nouveaux risques. Et ces nouveaux risques caractérisent par plusieurs éléments. Il nous dit, ben, d'une part, ce sont des risques qui sont produits, qui sont les produits d'activités technico-économiques. Donc, il y a une origine humaine. Une origine humaine, mais pas n'importe laquelle. Pas simplement le fait que l'être humain se développe et croît et se reproduit, pas simplement cet élément-là. Un élément très spécifique qui est une production de type technico-économique. Origine humaine. Deuxième élément, il nous dit, ces risques sont d'origine humaine, et en plus, il pose la question de leur invisibilité. Ces risques modernes, ils sont invisibles. Mais ils sont invisibles à l'œil de qui ? Ils sont invisibles à l'œil du profane, du non-scientifique. Ils sont invisibles à celui qui n'est pas capable de voir le risque. Ah, de quel type de risque parle-t-on ? On parlait d'asbeste tout à l'heure. Imaginons qu'il y ait des vieilles plaques d'asbeste ici au-dessus et qu'un membre du personnel décide d'accrocher un tableau dans son bureau et commence à fourrer dans l'amiante sans savoir qu'il y a de l'amiante derrière. Ben, nous sommes tous en train ici peut-être de respirer des particules d'amiante que nous sommes incapables de voir. Ni même de santé, ça ne pique pas aux yeux. Même chose pour la radioactivité. La radioactivité ne pique pas. Sauf avoir un compteur GGR qui nous permettrait de l'identifier, donc on revient avec les instruments techniques, les outils qui permettent d'identifier le risque, nous sommes incapables spontanément d'identifier ces risques. Invisibilité. Qui dit invisibilité pour le profane, je dirais plutôt pour l'usager, dit nécessité de recourir aux scientifiques. Qui, eux, ont les outils pour nous montrer les risques. Ils ont les outils pour nous montrer que, tiens, il y a un virus qui s'appelle H1N1, qui circule, qui est différent des autres. Ils sont capables d'être les porte-parole de ces virus, hein, pour reprendre un vocabulaire plus latourien. Ils sont capables de nous montrer ces éléments risqués que nous ne voyons pas. Premier problème dans ce, je dirais, premier élément intéressant dans ces deux caractéristiques des risques modèles, ces nouveaux risques, c'est qu'à la fois on voit qu'il y a une activité technico-scientifique à l'origine des risques, et qu'à la fois ce sont eux, ceux qui sont à l'origine de l'activité, qui sont les seuls capables de pouvoir identifier ces risques. Donc il y a une espèce de hiatus, de difficulté, de contradiction. Ils sont à la fois ceux qui produisent et ceux qui ont les outils pour déterminer quels sont ces risques. Autre élément de Beck par rapport à ces risques modernes, ce sont les échelles. Lesquelles ? Les échelles de temps et d'espace. Je dis, ces risques modernes-là, ces nouveaux risques, eh bien, ils ne vont plus simplement s'appliquer à un territoire extrêmement déterminé, à une région, à une commune, éventuellement à un local. Et ils ne vont plus simplement avoir lieu maintenant pour quelques temps, quelques jours, quelques heures maximum, mais ils s'inscrivent dans la durée, ils s'inscrivent dans les générations. L'exemple qu'on peut prendre, c'est Tchernobyl, évidemment. Hein. Le nuage radioactif ne s'est pas arrêté aux frontières françaises, comme les autorités françaises ont pourtant, à un moment donné, affirmé. Malgré l'efficacité de la douane française, ils n'ont pas été capables d'arrêter le nuage. Et donc, effectivement, ces dimensions d'échelle et de temps portent un coup de matraque important à la prise de décision publique. Quand un décideur public doit décider sur son territoire, des choses qui concernent son territoire, et gérer des problèmes qui sont produits sur son territoire, ça va. C'est pour ça que j'ai une vision très étatique des choses. Hein. Population, territoire, on a les ingrédients. Tout va bien. Quand on doit commencer à gérer les problèmes qui viennent d'ailleurs, pas du pays à côté, mais du pays situé à 5000 km. Comment fait-on ? Et quand on doit gérer des problématiques qui ne sont pas des problématiques qui ont lieu maintenant et dans la législature, là c'est le bonheur, mais des problèmes qui sont intergénérationnels et qui vont arriver dans 20, 30, 40, 50 ans. Comment fait-on en tant que politique dans la prise de décision pour pouvoir installer la prise de décision, pour pouvoir confirmer sa légitimité en tant que décideur et dire aux gens, vous allez payer aujourd'hui pour éviter un risque qui arrivera dans 50 ans. Donc, ces risques modernes-là, dans leur dimension d'échelle, d'espace et de temps, portent à la prise de décision publique un fameux coup sur la tête, puisqu'elle rend difficile, extrêmement difficile, la prise de responsabilité, la responsabilité même du politique. Dans quelle mesure le politique, dans ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire, soyons très clairs, un mode de fonctionnement à court terme, même s'il y a des volontés de dépasser le court terme étant les élections dans nos systèmes démocratiques, qui sont des échéances, comme vous le savez, extrêmement importantes, et quand il y en a une qui est passée, on pense déjà à la suivante. Et donc, évidemment, comment mettre en œuvre des politiques qui prennent en considération cet éclatement des échelles spatio-temporelles au niveau de décideurs qui ont des principes, ont des réalités qui sont extrêmement locales et des réalités extrêmement courtes au niveau du temps. Alors, dernier élément des risques modernes, c'est leur caractère irréversible. Irréversible et Beck ajoute égalitaire, mais c'est là où on peut vraiment se poser beaucoup de questions sur le caractère égalitaire des risques. Pour lui, ces risques sont tellement importants, tellement imposants, qu'à un moment donné, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez cultivé ou non, que vous, peu importe votre statut socio-professionnel, vous serez atteint, touché de la même manière par les risques. Bon, ça, c'est ce qu'il nous disait en 86. Évidemment, on voit bien que les risques modernes, le caractère égalitaire, mais il est revenu dessus par la suite, hein, il a tempéré un peu cet élément-là. En fait, il y a toujours un processus d'échappement, d'évitement des risques par le fait qu'on a une connaissance particulière sur l'existence d'un risque asbeste ou d'un risque contamination sans du sang, des choses comme ça, parce qu'on est plus informé, parce qu'on est mieux connecté, parce qu'on a un réseau qui fonctionne bien, un réseau social qui vous permet d'éviter un certain nombre de choses, ou parce que simplement qu'on a les moyens de déménager. Donc, ces éléments-là font que Beck nous dit, mais tiens, il y a des nouveaux phénomènes qui remettent en question ce paradigme de la prévention et qui vont amener un autre paradigme qui est celui de la précaution. Ces risques donnent lieu à l'émergence du principe de précaution. Et en fait, le principe de précaution, évidemment, il ne s'agit pas jamais de dire qu'on atteindrait un risque zéro, vous savez bien, je n'irai pas plus loin. On sait très bien aussi que le principe de précaution n'est pas un arrêt pur et simple des activités. Au contraire, le principe de précaution, c'est continuer des activités, mais dans un cadre particulier, une espèce de laboratoire dans lequel on irait mettre des paramètres spécifiques qu'on veut observer. Donc ça veut dire que ce n'est pas différer forcément une décision politique, c'est encadrer et se mettre les moyens d'avoir un monitoring, avoir un suivi de la prise de décision quant au développement de la technologie. Ce principe de précaution, en fait, qu'est-ce qu'il nous rapporte ? Il nous rapporte que le discours scientifique qui abreuve le politique dans le paradigme de la prévention, qui est un discours de certitude. Vous avez une voiture, vous habitez à Liège, vous avez moins de 25 ans, vous avez une cylindrée de machin, vous avez payé une prime d'assurance d'autant. On va jusqu'au bout dans l'identification des risques. On peut dire exactement quelle est l'exposition au risque dans une situation très particulière. Là, finalement, la distinction forte entre politique et scientifique, la science est tellement bien fondée, tellement bien assise, qu'il est difficile, dans certains cas, d'aller contre, je dirais, le sens naturel que donnerait un avis scientifique sur une problématique. C'est ce qu'on pourrait appeler la technocratie. C'est, finalement, la science est tellement bien assise, tellement certaine, et tellement capable de nous dire ce que sera demain, que finalement, quelle est encore la marge de manœuvre du politique par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a encore une marge de manœuvre ? Et s'il y en a une, comment va-t-il la mobiliser ? Comment va-t-il réfuter les arguments scientifiques qui impliqueraient quasiment inévitablement une décision politique spécifique ? Donc ça, c'est vraiment une question importante. Avec la précaution, le scientifique dit, je ne sais pas. Ou dans l'état actuel, je ne sais pas vous dire. Je n'ai aucune idée de ce qu'il pourrait y avoir. Qu'est-ce que ça donne aux politiques ? Ça lui donne une belle occasion de se réapproprier sa fonction politique, de réaffirmer sa légitimité politique. De quoi ? De décider ce qu'est le collectif, de prendre des risques, de prendre des options de société par rapport à des problématiques, et pas brandir un rapport des experts GMX pour dire finalement que machin ouvert parce que c'est mieux comme ça, ou brandir un rapport d'experts machin pour dire, vous voyez, c'est ce qu'il faut faire pour la vaccination. Non, à un moment donné, le politique est amené, parce qu'il y a
ces scientifiques qui sont sortis de leur laboratoire, qui sont en pleine controverse publique, qui discutent, qui sont mobilisés par des groupes qui ne sont pas seulement des groupes politiques, mais sont des groupes de société civile, des associations, qui vont eux chercher aussi leurs scientifiques, eh bien on arrive à un moment donné à une réaffirmation du principe de la prise de décision politique. Donc le principe de précaution, ce n'est pas du tout l'effacement du politique par rapport à une thématique, c'est en fait un appel à sa réaffirmation. Le principe de précaution est la belle opportunité que peuvent saisir les politiques pour dire, écoutez, maintenant, nous avons une délégation de pouvoir. Nous devons prendre des décisions pour la population et pour la société, ou pour le collectif, et nous allons le faire. Or, c'est un peu difficile pour tout le monde. C'est difficile pour le politique parce qu'on n'est plus habitué à vivre avec l'incertitude. On n'est plus vraiment habitué à vivre avec ça. Les citoyens aussi ne sont pas habitués à vivre avec de l'incertitude. Vous avez peut-être attrapé la grippe, peut-être pas. Donc dans la foulée, on vaccine tout le monde. Hop. Quelle est encore véritablement la marge de manœuvre politique par rapport à ce type de problématique? Et donc, le scientifique qui est impliqué dans cette phase de nouveaux risques, il est dans une situation où il doit dire, il doit communiquer à l'extérieur du laboratoire ce qui fonde la science elle-même, ça veut dire l'incertitude. C'est un des principes fondamentaux du fonctionnement de protection de connaissances scientifiques, c'est justement l'incertitude. On travaille en laboratoire et le point de départ, c'est qu'on essaie de réduire l'incertitude. Donc on a l'habitude de travailler avec l'incertitude. Le scientifique sait ce que c'est que l'incertitude, ça ne lui fait pas peur, enfin, j'imagine. Quand on doit communiquer cette incertitude en train de se faire, ou de ce processus de réduction d'incertitude en train de se faire en dehors des laboratoires, bien on communique en fait de l'incertitude alors que les gens n'ont pas été habitués à ça, ni les politiques, ni les citoyens. Et donc, le principe de précaution, dans son interprétation radicale, c'est de dire on arrête tout. Parce que ainsi, de cette manière-là, on n'est plus dans l'incertitude. On est dans l'incertitude, on ne fait pas quelque chose. L'application radicale du principe de précaution, c'est récupérer cette certitude qu'on perd finalement avec une application, je dirais, intelligente du principe de précaution. Ça veut dire quoi par rapport au processus décisionnel? Ça veut dire que les risques modernes sont en train de redéfinir le mode de fonctionnement, cette double délégation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, d'un point de vue de la prise de décision politique, on va penser à essayer d'ouvrir les processus décisionnels, puisque la science est aujourd'hui dans une situation où elle nous dit qu'elle ne sait pas. Comment faire pour changer, ou pour ouvrir, ou pour réaffirmer la légitimité politique d'une prise de décision? Eh bien, on va ouvrir les processus décisionnels. On va ouvrir les processus de prise de décision à qui? À d'autres acteurs que les scientifiques. Et c'est là que nous avons un nouveau modèle d'analyse des risques. Vous allez voir que les forums hybrides vont finir par arriver. On a aujourd'hui un nouveau modèle de gouvernance des risques, et ça, je pense que c'est un concept qui, malgré son hyper-utilisation, doit être replacé dans son acceptation scientifique, entre guillemets, mais en tout cas utile pour analyser certaines situations. Le concept de gouvernance devient fondamental dans cette reconfiguration du processus de prise de décision. C'est vraiment lui qui est au centre de la réflexion. Pourquoi? Parce que le modèle classique intestinal de tout à l'heure, on a maintenant un modèle complètement différent, qui est en fait un modèle qui ne vient pas de nulle part, qui est un outil que certains académiques dans le domaine des sciences molles activent un peu partout pour enrôler les scientifiques durs pour mettre ça en place. Et ça marche bien puisqu'il y a beaucoup de problèmes concrets de gestion des risques. Ou ici, on ne parle plus d'identification des risques, on va parler de pré-évaluation. Après, on parle d'évaluation. Ensuite, ici, on parle de tolérabilité ou acceptabilité. On parle de gestion des risques. Et au milieu, de communication des risques, avec des flèches qui vont naturellement dans tous les sens. Vous voyez, c'est quelque chose de très, très dynamique, très beau. Ce modèle-là, splendide, dit « Ok, maintenant les risques, ce n'est plus les scientifiques qui, à un moment donné, identifient, évaluent, et puis les décideurs publics ou les décideurs tout court qui mettent en œuvre les mesures de gestion. On a une première phase d'évaluation, de pré-évaluation. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette phase de pré-évaluation? Eh bien, on retrouve, je dirais, des principes scientifiques classiques, l'identification du risque au niveau chimique, biologique, etc. On a des petits testeurs pour identifier la présence de gènes ou de virus ou de choses comme ça. Mais il y en a aussi la question du cadrage et la question des lanceurs d'alerte. Ça, c'est un reste de l'ancien modèle. Ces deux-ci, c'est quelque chose de tout à fait différent. On dit, tiens, quand maintenant on va parler d'un risque potentiel, on va surtout essayer d'ouvrir le cadrage de ce risque. En quels termes en parlons-nous? Par exemple, la grippe H1N1, quel est le cadrage qui est fait actuellement? En quels termes parle-t-on de la grippe?
Pandémie,
santé publique. Quel est un autre type de cadrage qu'on pourrait avoir sur la grippe?
Le coût.
Économique. Un autre type de cadrage?
Mortalité.
Oui, santé publique, mortalité, ça c'est la même chose. On peut en fait cadrer la grippe aviaire. La grippe aviaire. Bref, je ne m'y retrouve plus avec les aviaires, les porcines, les mexicaines. La H1N1, c'est beaucoup plus scientifique, c'est beaucoup plus sérieux d'ailleurs. Et on pourrait voir comment le changement de nom, dans quelles circonstances il a eu lieu et les raisons. Si on retrouve grippe H1N1, ça fait quand même beaucoup plus sérieux que grippe mexicaine, non, vous ne trouvez pas? Et ça stigmatise un peu moins aussi, c'est pour gagner la population. Mais, bon, et donc, on peut avoir un cadrage différent qui fait qu'on peut mettre l'accent sur l'évaluation qui suivra. Tiens, quel est l'impact économique? Quels sont les acteurs économiques qui gagnent, qui perdent? Quel est finalement l'impact sur le fonctionnement de l'administration publique si la pandémie se déclare et qu'elle se déroule? Quelles sont éventuellement les différences sociales qui peuvent survenir face à la grippe si on n'a pas une vaccination obligatoire? Toute une série de considérations de ce type-là. Donc ici, l'idée, c'est dans le temps, on aurait dit, c'est santé publique. Ici, on peut ouvrir un peu le cadrage sur les risques pour porter une évaluation différente. Les lanceurs d'alerte, alors là, c'est un cas très, très intéressant. J'imagine que vous connaissez tous un peu Francis Château-Renaud et Didier Torny. Qui ont, dans leur bouquin Les sons précurseurs, ont vraiment mis en évidence ce principe d'alerte. Et ce principe d'alerte est d'autant plus intéressant par rapport à cette thématique-ci que le principe des lanceurs d'alerte, il est justement intéressant parce qu'il n'est pas intimement, étroitement lié aux scientifiques. Justement, les lanceurs d'alerte, ce sont ces personnes qui ne sont pas des scientifiques, qui peuvent à un moment donné crier quelque chose. Alors, un lanceur d'alerte, Un système d'alerte, il se définit en plusieurs phases. La première phase, c'est l'identification, l'analyse de l'alerte, et puis la communication de l'alerte. Bon, alors, on a des alertes qui sont des alertes de type technique extrêmement bien sophistiquées, bien, qui fonctionnent bien. Voilà, ça, le détecteur d'incendie, c'est un petit mécanisme. Bon, absolument, non ? D'accord, ça ne marche pas. Bon, ok. Donc on a ce petit appareil qui détecte, qui analyse en même temps que détecter et qui crie. Qui crie, qui éventuellement vous arrose dessus. Donc ça, c'est un petit mécanisme qui fonctionne tout seul. C'est un système dans lequel nous avons confiance. Système technique qui permet de prévenir les risques d'incendie. D'ailleurs, si vous en avez un, vous avez des réductions des primes d'incendie ou ce genre de choses. Donc c'est que scientifiquement, c'est bien fondé. Maintenant, au niveau de l'alerte, il y a d'autres types d'alertes. Il y a des alertes qui sont des alertes humaines. Ça, c'est des alertes non humaines. Si à un moment donné, je fais ça, par exemple. Au feu ! Voilà, je l'ai fait. Hein. J'ai crié au feu. C'est une alerte qui est tout à fait inutile. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Dans notre construction, dans notre représentation de l'alerte incendie, on a rarement quelqu'un qui crie au feu. On a des sirènes, on a des choses qui s'allument, on a de l'eau qui tombe sur la tête, mais on n'a pas ça. Donc si maintenant on a quelqu'un qui ouvre la porte, j'ai eu le cas une fois en fait. C'est assez compliqué. Arlon. Et si on a ce système d'alerte-là qui fonctionne, ça veut dire que dans la représentation, on accorde une confiance à ce qui n'est pas technique. On accorde une confiance à un élément humain, un peu bizarre, un peu extraterrestre, qui va à un moment donné lancer une alerte. Ça veut dire qu'il y a des récepteurs positifs à ce genre d'alerte. Si on est maintenant... Oui, mais c'est important.
On va voir qu'il va
arriver. C'est intéressant. Si maintenant on se situe au niveau de la prise de décision collective, face à des nouveaux risques... Ah oui, c'est vrai, c'est un peu gestion. Si on est face à des problématiques de type technologique, risque moderne, style OGM. OGM, changement climatique, nanotechnologie, des problématiques de ce type-là, où ce sont des risques qu'on ne parle pas, qu'on ne voit pas, qu'il faut voir. Qu'est-ce qui va se passer? On va avoir un système d'alerte qui va fonctionner de cette manière. Ici, on a une espèce de smog, une espèce de couche de brouillard épaisse. Là, on a nos autorités publiques, les décideurs publics, qui sont en charge de la collectivité. Ici, on a l'ensemble de la société. C'est vraiment un gros schéma, mais c'est juste pour vous montrer le processus. Il existe des mécanismes qui proviennent de la société, qui ont un passage privilégié aux oreilles. Aux oreilles des pouvoirs publics pour dire il y a un problème, il faut agir. Par exemple, des rapports du bureau du plan qui envoient des signaux sur tiens, ça évolue comme ceci. On a des commissions d'experts qui sont montées par les pouvoirs publics, décidées par un ministre qui voudrait bien avoir un avis sur. Ces personnes-là, ils ont une fenêtre d'opportunité, pour envoyer ce terme, pour parler aux décideurs. Mécanisme de type scientifique. Donc ce sont des scientifiques qui ont. Sont reconnus dans leur activité de production de connaissances, et cette connaissance-là est confirmée, labellisée, reçue, sans aucun problème. Maintenant, on peut avoir des mécanismes où, une fois que l'information arrive ici, il y ait des contre-expertises qui contestent ceci. Mais ils parlent directement. Qu'est-ce qu'on a comme autre type de mécanisme pour parler directement aux décideurs, pour lancer l'alerte? On a les médias. Les médias, c'est une manière de porter à l'attention des politiques, surtout quand on connaît le mode de fonctionnement des politiques, ça veut dire un homme politique concrètement, pour faire bref, le matin, la première chose qu'il va faire, c'est vérifier ce sur quoi il pourrait devoir intervenir au cours de la journée en lisant la presse. On lui fait des comptes rendus et il doit savoir comment réagir par rapport à quelle thématique. Donc, la mise à l'agenda politique est étroitement liée à la mise à l'agenda médiatique. Donc, les médias sont un élément de lanceur d'alerte extrêmement important. Des émissions comme De Fossé faisait à l'époque, et qui continuent d'ailleurs avec un autre présentateur pour l'instant, sont des mécanismes qui peuvent à un moment donné porter des alertes et en tout cas mobiliser des gens. Ou en tout cas avoir une répercussion au niveau de la prise de décision. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on a comme autre mécanisme? Eh bien, on a des collectifs de citoyens qui, peut-être à la force du canon, vont se constituer en ASBL, en association, faire des manifestations, faire des pétitions, faire des choses de ce genre-là, pour dénoncer une situation, pour projeter un risque futur qui est potentiel, majeur, qui va arriver, pour essayer d'entraîner une prise de décision, une prise en considération. Ces deux-ci fonctionnent relativement bien, même si, en termes d'efficacité de l'alerte, celui-ci est beaucoup plus compliqué. Si je prends des exemples par rapport à ce type de collectif, les collectifs qui sont par exemple mobilisés contre l'implantation d'antennes GSM ou en tout cas des problèmes qui sont relatifs au champ électromagnétique, eh bien on a des collectifs qui se mobilisent et qui n'arrivent pas à lancer une alerte parce que, notamment, ils n'utilisent pas les outils que les scientifiques utilisent. Pour qu'un collectif de citoyens puisse passer le brouillard, pourquoi il y a un brouillard en fait? Parce que des alertes, il y en a des centaines par jour, tout le temps, dans tous les domaines, qui viennent d'un peu partout. Il y a des alertes les plus farfelues les unes que les autres. Mais il y en a des centaines. Donc si on a des centaines, on ne peut pas toutes les écouter. Donc l'objectif du politique, notamment, c'est de pouvoir identifier les bonnes alertes au bon moment. Et pas n'importe lesquelles. Si le collectif ici n'arrive pas à se faire entendre, ça veut dire n'arrive pas à utiliser des instruments qui par ailleurs sont reconnus comme étant fiables, des mesures, des outils, des mesures, des champs électromagnétiques par exemple,
eh bien, naturellement, sa crédibilité par rapport aux États-Unis politiques sera complètement descendue en flèche. Ou sera remise en question bien avant d'arriver par les scientifiques eux-mêmes, qui diront, écoutez, c'est n'importe quoi, votre ASBL, machin, sur les champs électromagnétiques, vous dites n'importe quoi. Vous n'avez pas de preuves scientifiques de ceci. Et on a des cas d'associations de riverains, notamment des lignes à Villers-le... dans la région de Danube-Villers, Villers-le-Temps,
non, Villers,
c'est pas l'oublier, c'est plus loin encore. Oui, enfin, peu importe. Ils ont cette ligne haute tension enterrée, et ils sont les seuls à détenir, jusqu'à en tout cas un an et demi, un appareil de mesure des champs électromagnétiques en même temps que l'ALD. Eux, mais l'appareil coûte tellement cher techniquement qu'il n'y en a pas d'autres vraiment qui l'ont. Et donc, ils étaient en fait déteneurs d'une compétence scientifique particulière au travers de l'utilisation d'un outil de détection d'un risque qu'on ne voit pas, qu'on ne touche pas, qu'on ne sait pas ce qu'il y a, etc. Et cette mobilisation est d'autant plus possible que dans l'association en question, il y avait un électricien qui avait apporté sa compétence, il n'y avait pas que lui. Et donc vous voyez que j'en viens tout doucement à la question des forums hybrides. Par rapport à ces risques modèles, dans le fonctionnement des lanceurs d'alerte, on va retrouver une compétence, une expertise alors, d'usage de quoi ? D'usage de l'environnement dans lequel on se situe. Par exemple, prenons le problème de mobilité, d'usage de la voiture, d'usage en tant que personne qui, à un moment donné, détient et développe une expertise dans sa vie de tous les jours, mais qui n'est pas une expertise scientifique. Et qui n'est pas reconnue comme étant la même valeur scientifique. Il y a toujours une espèce de décalage entre l'expertise scientifique et l'expertise d'usage. L'expertise d'usage étant considérée comme moins intéressante que l'expertise scientifique. L'idée, c'est qu'avec les lanceurs d'alerte, ceux qui détiennent l'expertise d'usage ont la capacité de produire une connaissance qui a une valeur égale, en tout cas, à l'expertise scientifique produite. Et peut compenser même des manquements ou des problèmes dans les modèles scientifiques mobilisés. Donc, à un moment donné, on a retrouvé dans certaines études de cas, Ryan Wynn avec les moutons et encore aussi les maladies orphelines en France, des associations de patients par exemple, qui ont réussi, parce qu'ils étaient extrêmement impliqués dans la problématique, à apporter des éléments qui ont complété les modèles scientifiques, qui les ont améliorés et qui ont permis comme ça de développer toute une série de choses qui n'auraient jamais été produites par ailleurs. Donc c'est une ouverture à des personnes qui n'ont pas le label scientifique, mais qui ont une expertise d'usage. On continue avec l'évaluation. L'évaluation ici va se faire à la fois de manière scientifique dure et à la fois sur les éléments plus sociaux, plus politiques, plus éthiques des risques. Je vais passer un peu le reste du cycle. En fait, l'idée, c'est qu'on est dans un mécanisme où l'ouverture se fait à chaque moment de l'analyse des risques et plus seulement, alors que dans l'ancien modèle, ça ne se faisait pas du tout. En fait. Ici, on ouvre aux non-scientifiques et aux non-politiques une possibilité d'intervention dans l'évaluation, dans la balance entre un risque acceptable et tolérable, dans les mesures de gestion, de prise de décision par rapport au risque, qu'est-ce qu'on en fait, et surtout dans la communication. Alors j'en reviens à mon concept de gouvernance, c'est ce qu'on appelle la gouvernance du risque. Et en fait, en Sciences Po, ce concept de gouvernance est extrêmement difficile à manipuler puisque il a des relents, je dirais, de quasiment ultralibéraux. Ils ont fait la gouvernance, à un moment donné, était aussi présentée comme étant un mécanisme de l'État se désinvestit de tout et on laisse tout aux acteurs privés, à la sphère privée, et le pouvoir public n'est plus là pour gérer le collectif sera géré tout seul. Mais en fait, l'idée de la gouvernance, c'est vraiment de dire, dans la prise de décision classique, on a le décideur public est ici, et le décideur public, dans la perspective de gouvernance, il va ouvrir les différentes phases de documentation d'information aux acteurs. Et il va laisser en fait une place importante aux acteurs de terrain qui sont concernés par une problématique, des consommateurs, des producteurs, peu importe, des associations plutôt religieuses, ce genre de choses. Il va ouvrir le processus décisionnel à ces acteurs-là, va les laisser interagir avec tous les risques que ça supporte. suppose, de prédominance de l'un sur l'autre, ou de domination d'un groupe sur l'autre en fonction des moyens qu'on met en place. Je fais référence par exemple le forum nucléaire.be, magnifique initiative, dont on voit le budget que ça représente, c'est à faire frémir. C'est payé par qui ? Pas payé par les écolos, hein. C'est payé par Suez et les joyeux drills qui sont au niveau de la production énergétique. Donc, on a l'ouverture des thématiques des prises de décision publiques à des acteurs qui, eux, vont se déterminer entre eux les enjeux. Donc, il y a un désengagement de ce point de vue-là, mais dans le concept de gouvernance en Sciences Po, les pouvoirs publics gardent la main finale sur la prise de décision. Ça veut dire qu'il s'agit d'une phase d'information élargie complémentaire, et plus seulement les mécanismes d'expertise scientifique classique avec les conseils, les comités d'évaluation traditionnels. Il s'agit d'ouvrir les thématiques à la population ou aux groupes qui sont concernés par une thématique. Donc ce sont ce qu'on appelle les stakeholders en mauvais français, les parties prenantes. Ça, ce phénomène de gouvernance, est un phénomène qui permet justement de décloisonner et de convoquer des expertises qui habituellement ne sont jamais consultées. Donc les forums hybrides participent de cette idée de gouvernance, de cette idée d'ouverture des processus décisionnels à des acteurs qui habituellement ne sont pas reconnus comme étant des acteurs qui ont droit de parole dans le processus décisionnel. Alors, ces forums hybrides, comment se caractérisent-ils ? Eh bien, Calon, Barthes et Lascombe parlent de toute une série de techniques particulières qui permettent à des usagers de venir faire valoir leur expertise, qui est une véritable expertise, en se mélangeant ou pas avec des experts scientifiques, et au cours de ce processus, je dirais, d'échange d'expertise, mais dans la mesure où ces expertises sont considérées de la même manière, eh bien, on va à ce moment-là s'enrichir et produire une connaissance qui va dépasser les clivages anciens entre experts et profanes. On a une réaffirmation que l'usager peut véritablement apporter une information intéressante dans un processus de prise de décision. Cette ouverture des processus décisionnels, on va retrouver, je reprends mon schéma tout à l'heure avec les différentes phases, on va retrouver, en fonction, si on est dans l'information, dans l'analyse ou dans la prise de décision, des mécanismes différents. Cette ouverture des processus décisionnels, si elle se fait au niveau de la prise de décision, si on dit qu'on ouvre les processus à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a comme mécanisme ? Des référendums, on a de la démocratie directe, qui est naturellement pour ce qu'on a le problème dans nos systèmes de démocratie représentative. On n'imagine pas du tout ces mécanismes-là. Si on a des mécanismes qui se situent ici, on a toute une série d'outils qui sont disponibles. Aller convoquer des usagers, des techs, pour savoir, tiens, est-ce que tel trajet est bien fait, on peut aller les chercher. On va les chercher comment ? On peut les chercher par des méthodes participatives, style des groupes focalisés, je ne sais pas si vous êtes familier à ce genre de technique, je peux en dire deux mots, style des ateliers scénarios, donc on va mettre en œuvre toute une série de techniques particulières, dans lesquelles, normalement, le but du jeu est de maintenir un équilibre entre un expert scientifique et un expert d'usage. La véritable difficulté, c'est que la convocation de ces citoyens, de ces usagers dans des mécanismes participatifs est en fait l'affaire d'expertise et est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Si l'idée est d'ouvrir le processus décisionnel en prenant réellement au sérieux les acteurs qui sont engagés dedans, les citoyens qui sont engagés dedans, vraiment prendre leur connaissance pour ce qu'elle est, ça veut dire que techniquement, dans la mise en place de ces mécanisme d'ouverture, ces groupes, un focus group, c'est un groupe, un entretien collectif, si vous voulez, avec une douzaine de personnes autour d'une table sur une thématique, et on échange ses représentations, ses peurs, ses attentes, etc., par rapport à une question particulière. Si on met ça en œuvre et que l'on a un mauvais animateur, ou que l'on a un très bon expert, et qu'on a des phénomènes de leadership, ce genre de choses, le rapport que l'on veut égalitaire entre l'expert d'usage et l'expert scientifique va tout de suite être contrebalancé. Et donc, il faut, dans la mise en œuvre de ces techniques, de ces forums hybrides, de ces mécanismes participatifs, agir avec une prudence de SIU pour être certain, justement, que cette expertise d'usage puisse simplement éclore. Tout ça pourquoi? Parce que dans nos sociétés, il subsiste cette lame de fond positiviste, dure, que la science est capable de dire et que quand le scientifique prend la parole, ben, il a forcément raison. Ça reste. Sauf dans des groupes de contestation très particuliers où, où certains, de toute façon, sont payés par, par la grande industrie et parce que tous vendus. Donc, à part ces cas typiques-là, en général, si dans un groupe de discussion, on a la prise de parole d'un expert, eh bien, en général, l'expert scientifique va avoir un effet d'entraînement assez important. Donc, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Non seulement dans le choix des experts, mais aussi dans la finalité. Quand on crée des forums hybrides, et quand on crée ces espaces de discussion, d'échange, dans le cadre d'un processus décisionnel, il faut bien entendu que le processus décisionnel en question soit convaincu de la démarche. Si on dit qu'on fait de l'ouverture et de la gouvernance, juste pour dire de rencontrer les citoyens et qu'ils nous foutent la paix parce que si on ne pourra pas dire qu'on ne les a pas écoutés, évidemment, on voit vite les limites du système. Ça n'a aucun intérêt. Et donc, l'idée, c'est qu'en créant des forums hybrides, ces espaces de discussion publique, il faut que le politique soit lui-même convaincu de l'intérêt de faire véritablement ça. Et cet intérêt est très vite limité, puisque, en général, ces processus d'ouverture vont remettre en question la double délégation politique et scientifique. En faisant les forums hybrides, on est à la fois en train de dire aux politiques, oui, mais les citoyens, même si vous avez un mandat, ils peuvent vous donner des idées, des orientations pour une prise de décision. Oui, mais alors quel est encore mon rôle de politique si j'ai un mandat pour 5 ans et qu'on me met dans les pattes des groupes de citoyens qui vont faire des propositions? Si je ne les suis pas, qu'est-ce qui va se passer? Donc, dans l'interaction qu'il y a entre le politique et les forums hybrides, il y a la question fondamentale du leadership qui réapparaît dans nos sociétés. Et là, je repense aux travaux de Lebrun sur le leadership. Vraiment, mais tiens, finalement, aujourd'hui, toutes les décisions sont contestées tout le temps. Si on ouvre des processus décisionnels à des forums hybrides, à des modes participatifs, dans quelle mesure cette ouverture-là n'est pas une fausse ouverture et ne va pas complètement obliger le décideur à suivre les travaux des citoyens, indépendamment de la qualité de ceux-ci? Donc, l'ouverture des processus décisionnels ne peut fonctionner que si on réaffirme la prédominance et la responsabilité politique du décideur public. C'est à ce prix-là, donc ça veut dire qu'il faut un pouvoir politique fort, pas dictatorial, hein, mais, qui prend ses responsabilités, et pas un pouvoir politique qui, parce qu'un groupe de citoyens, un panel de citoyens s'est réuni pendant 3 week-ends, et a fait du tapage à travers les médias, et parce qu'il veut... Parce que le problème de ces forums hybrides, c'est qu'ils représentent... De qui sont-ils les porte-parole? C'est ça le problème. De qui sont le forum nucléaire, de qui est-il le porte-parole? Des associations de riverains, de qui sont-ils les porte-parole? Et donc il y a toute la question finalement de la légitimité de ces groupes qui sont mobilisés au travers des forums hybrides, qui est à re-questionner. Je dis ça avec beaucoup de difficulté parce que je suis intimement persuadé, d'un point de vue très normatif, que c'est important et qu'il faut ouvrir les processus décisionnels, mais il y a tellement de difficultés techniques, des difficultés de représentation et de légitimité derrière la constitution des forums hybrides que directement on voit très vite les limites en fait du processus. Je vais terminer, je pense que j'ai encore un petit peu de temps, oui, un peu pour des questions ou des interactions éventuellement, sur les phénomènes de résistance que l'on va trouver par rapport à la mise en place de ces forums hybrides. Il y a 3 phénomènes de résistance. D'une part, les phénomènes de résistance scientifique. Parce que, je suis désolé, en tant que scientifique, qu'est-ce qu'on va demander à ces pauvres citoyens tout à fait irrationnels qui ne connaissent rien? C'est un discours qu'on entend un peu régulièrement, malgré le fait que l'on a des cas concrets où on voit très bien qu'il y a un rapport intéressant des citoyens. Il y a un premier phénomène de résistance du monde scientifique lui-même. Le deuxième phénomène de résistance est un phénomène de résistance du politique, justement parce que ça met en question le fonctionnement de la démocratie représentative et de son mandat. Ça re-questionne son mandat et de sa liberté par rapport à la prise de décision. Et le troisième phénomène de résistance, auquel on ne penserait pas directement, ça vient des groupes eux-mêmes qui pourraient être mobilisés. Résistance qui provient d'où? Qui provient de mauvaises expériences du passé, de sensations ou de perceptions de manipulation. Tiens, j'ai participé un jour à un colloque hein, ou à une conférence de citoyens, où moi aussi on m'a interrogé l'autre jour là-dessus. Et finalement, ils ont fait ce qu'ils ont voulu.
Et donc, il y a des attentes, c'est le troisième phénomène de résistance, des citoyens par rapport à un mécanisme de forme, d'ouverture du processus décisionnel. Tout ça pourquoi? Parce qu'en général, le processus d'ouverture, il n'est pas bien expliqué. Et c'est vraiment ça le problème. Quand on fait un forum hybride, quand on veut impliquer les gens, il faut expliquer qu'il ne s'agit pas de prendre la décision. C'est pas ça qu'on demande aux gens. On ne leur demande pas de prendre la décision. On doit leur expliquer où ils se situent par rapport au processus décisionnel. On doit leur réexpliquer, leur dire quelles sont les interférences, quelles sont les limites. Donc en fait, la première étape à faire quand on parle de forum hybride, c'est de réexpliquer le contexte décisionnel dans lequel ça se passe. Pour éviter les perceptions de manipulation ou les réelles manipulations. C'est pas anodin, je dirais, il y a des tas de démarches participatives qui sont des démarches clairement orientées, clairement parce qu'on veut un résultat, clairement parce que ça soutient un discours politique derrière, on veut juste légitimer une démarche, mais en aucunement prendre en considération ce que les gens vont y dire. Et ça, voilà, on le voit, on le sent, on le ressent, et quand on est citoyen et qu'on se fait embarquer dans un processus participatif, souvent on retrouve l'argumenté dans le « non, je me suis déjà fait avoir une fois ». Et ça, vous n'aurez plus de fois. Et donc, les mauvaises expériences de démocratie participative, de forum hybride, c'est un élément qu'il faut naturellement mettre à jour et expliquer.